Avant de lire dans les Écritures, je vous invite à prier. Toi qui es notre Dieu, nous te prions que ta parole touche nos cœurs, que ton esprit parle à nos esprits, que ton évangile devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Aujourd'hui, notre méditation portera sur trois textes de la Bible, trois textes que vous avez déjà entendus ce matin, puisqu'il s'agit des textes que Suzanne, Églantine et Alexandre ont choisis pour leur confirmation. Mais je vais quand même les relire, peut-être vous les avez un peu oubliés. D'abord, dans le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Et puis, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, les versets 38 à 40. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül à sa ceinture, par-dessus ses habits, et il essaya vainement de marcher. Il n'était pas entraîné. Il dit alors à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cela, car je ne suis pas entraîné. » David s'en débarrassa et prit son bâton, se choisit 5 pierres polies dans l'oued et les mit dans son sac de berger, dans sa besace. Puis, sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin Goliath. Et enfin, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, les versets 30 à 35. Jésus reprit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » J'ai pensé à un bref temps cette semaine, à ne pas faire de prédication, à laisser la parole à Alexandre, Suzanne et Églantine. Puis je me suis dit quand même qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce texte, dans ces trois textes, dans cet ensemble de textes, parce qu'ils ont un lien entre eux. Ils présentent un thème commun. Ils parlent ou évoquent le chemin. Puis c'était d'autant plus intéressant pour aujourd'hui que les enfants d'école biblique, comme je vous l'ai dit, avanceront cette année eux-mêmes avec le thème du voyage. Le chemin, le voyage, c'est une image très ancienne et très commune pour parler de l'existence, de la vie humaine, la vie de chacun. Vivre, ce n'est pas rester dans un surplace permanent, c'est avancer et pas seulement en âge. Ce jour représente une étape sur le chemin de Suzanne, sur le chemin d'Alexandre, sur le chemin d'Églantine. Leur confirmation est et a été, quand ils l'ont préparée pour eux, l'occasion de regarder un peu en arrière le chemin déjà parcouru et puis de regarder en avant celui qui est à venir. Et même si personne ne peut prédire quel sera leur chemin à venir, ni le chemin de personne d'ailleurs, ils ont exprimé tous les trois quelque chose d'important qui va les aider, qui va les accompagner, quelque chose qu'ils ont reçu pendant leurs années d'école biblique et de catéchisme, parce que leurs parents, leur famille et nous ici en Église Nous avons voulu, et voulons encore, les encourager, les accompagner sur leur route et leur faire part de ce qui nous semble tellement important et même essentiel pour avancer. Suzanne a parlé de lumière. Églantine a parlé de se sentir bien. Et Alexandre a parlé de bienveillance. Et nous avons tous besoin de cela pour avancer, en être de marche, de chemin, de route, de sentier que nous sommes. Nous avons besoin de lumière parce que la lumière guide et rassure, comme l'a dit Suzanne, parce que marcher dans l'obscurité, c'est un bon moyen, le meilleur, pour se cogner, pour tomber, pour se décourager. Nous avons besoin de nous sentir bien, c'est-à-dire de ne pas nous sentir jugés, comme l'a dit Églantine. Ni jugés, ni condamnés, ni punis pour ce que nous sommes, mais nous sentir accueillis, acceptés, tels que nous sommes, car sinon, comment pourrions-nous imaginer, comment pourrions-nous essayer, comment pourrions-nous oser, comment pourrions-nous nous lancer? Et sinon, à quoi bon marcher? Et à quoi bon être vivant? Nous avons besoin de bienveillance, comme l'a dit Alexandre, c'est-à-dire de regard, de paroles, de gestes, d'attention et de reconnaissance gratuitement, sans avoir à les payer d'une manière ou d'une autre, parce qu'alors sinon nous sommes contraints, enfermés, et nous ne sommes pas libres de marcher. Ce qui a fait lumière pour le Samaritain de la parabole, c'est la compassion. C'est-à-dire littéralement, dans le texte grec, une agitation des entrailles, un bouleversement intérieur, un non viscéral à ce qui peut briser et tuer un autre humain. Et un oui tout aussi viscéral à cette personne qui est en danger au bord du chemin. Alors que le prêtre et le lévite sont passés à distance, alors qu'ils ont fait un détour pour s'écarter de l'homme blessé, parce qu'ils sont, eux, enfermés dans un carcan de règles et d'obligations qui compriment tellement leurs entrailles que celles-ci ne peuvent plus du tout s'agiter. Le prêtre et le lévite sont les représentations de celles et ceux, peut-être bien de nous parfois, qui se préoccupent plus d'être en règle que de devenir humain. Jésus de Nazareth, qui raconte cette parabole, est venu renouveler et faire part de cette humanité en chemin vers l'autre. Ce qui fait lumière pour David apparaît, eh bien, dans l'obscurité. Lorsque le garçon se sent écrasé sous le poids de l'armure du roi Saül, lui qui n'est encore qu'un adolescent, lui qui n'est ni soldat, ni roi, mais seulement berger. Pour faire face à l'épreuve, pour faire face à l'adversaire, même aussi impressionnant que le géant Goliath, David ne peut pas et ne veut pas marcher dans cette armure avec tout ce bronze et ce cuir. Même si cela part d'un bon sentiment de Saül, qui cherche à protéger et à armer au mieux le seul volontaire de son armée, qui veut bien affronter le géant. David, lui, veut avancer tel qu'il est, en jeune berger. Parce que tel qu'il est, avec ses faibles forces, son ignorance totale de la science des armes, il fait confiance à l'Éternel qui lui a fait confiance. Il veut se sentir bien lui-même en ce temps d'épreuve. Dans les habits ou dans les chaussures d'un autre, on ne se sent pas bien. Et si l'on endosse de gré ou de force les souhaits, les ambitions, les rêves, les manières ou la vie d'un autre, on ne se sent pas bien. Ce qui fait se sentir bien, c'est la confiance reçue personnellement. La confiance qui donne du courage et la paix du cœur. Et alors on peut avancer, même face à l'épreuve, parce qu'il y en a toujours des épreuves. Alors pour aller contre Goliath, David prend son bâton et sa fronde, c'est-à-dire son équipement de berger. Il n'a plus qu'à trouver les pierres pour la fronde. Vous souvenez-vous combien il y a de pierres ? 5. Alors là, ce n'est pas compliqué. Quand un auteur biblique écrit dans son récit, dans son texte, le chiffre 5, c'est qu'il fait référence à la Torah. C'est presque automatique si vous lisez un texte biblique dans lequel il est écrit 5, par exemple, tenez 5 pains et 3 poissons. Eh bien, 5, ça fait penser à la Torah. La Torah est composée de 5 livres. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Et c'est-à-dire la Torah, l'enseignement. L'enseignement, le chemin indiquant comment être vivant en humain. En humain de parole, humain qui parle d'une parole fiable, et un humain selon la parole de Dieu. David ne se confie pas dans l'armure et dans l'épée de Saül, mais dans la parole de Dieu, celle qui est lumière et lampe sur le chemin, n'est-ce pas ? Celle qui éclaire le sentier devant les pas. Et nous revenons au psaume 119, qui est le plus long du livre des psaumes. Je ne sais pas si tu l'as lu en entier, Suzanne. 176 versets, le plus long chapitre des Écritures de toute la Bible. Et il est tout entier consacré à une méditation sur la loi de Dieu, sur la Torah, la loi comme enseignement, la loi comme chemin de vie. En quelque sorte, quand il ramasse ces 5 pierres, c'est comme si David s'était plongé dans la Torah pour y trouver de quoi avancer face à Goliath. Mais la loi, non pas comme parole d'ordre, d'obligation et d'exigence, la loi comme parole de promesse, de libération, de bénédiction, parole de grâce. Là est la voie de la vie. D'ailleurs, les deux versets précédents, celui que Suzanne a choisi, parlent de la parole de Dieu comme étant du miel doux à la gorge, et aussi que la parole de Dieu rend intelligent. Alors bien sûr, il n'est pas question de QI là, ni de classement. Il est question d'une compréhension de soi, d'une compréhension des autres, d'une compréhension du monde, à la lumière de Dieu, qui est Dieu des vivants. Il y a bien d'autres lumières dans le monde qui proviennent d'autres sources, d'autres lois, par exemple la loi de la concurrence, ou la loi du profit, ou la loi du plus fort, ou la loi des règles, comme celle qui éclaire le détour que font le prêtre et le lévite dans la parabole que raconte Jésus. Le prêtre et le lévite qui laissent l'homme à demi mort se sentir mourant, se sentir en train de mourir. Eux se sentent en règle, mais se sentir en règle, ce n'est pas se sentir vivant. Alors que le Samaritain, lui, se sent concerné par l'homme blessé jusqu'à devenir son prochain. Jésus raconte cette parabole lors d'un dialogue avec un spécialiste de la loi qui comprend alors, chemin faisant, de questions en réponse, et presque plus de questions que de réponses. Quel est le sens de la loi ? Quel est l'esprit qui fait de la loi un chemin de vie? Et le détour par la parabole du Samaritain en voyage pose sur l'existence cette lumière de gratuité et de gratitude qu'Alexandre avait relevé. Et ce détour dessine un monde de prochain, un monde de compassion. Et en reprenant la figure du jeune David, nous pourrions dire un monde non pas de soldats armés, mais de bergers confiants qui suffisent pour faire face au mal et aux épreuves. Alors à cette lumière venue dans le monde pour le rendre plus humain et plus vivable, et pour que nous y marchions en humains vivants, à cette lumière dans laquelle, sous laquelle nous nous sentons bien, accueillis, reconnus, aimés, cette lumière qui nous illumine d'une dignité, d'une extrême valeur. À cette lumière bienveillante en chacune des étapes de l'existence, qui nous réunit en solidarité, en communion, les uns avec les autres et avec elle. À cette lumière, nous remettons Églantine, Alexandre, Suzanne et tous les enfants. Et nous nous remettons tous, les uns et les autres, avec confiance, avec reconnaissance et avec espérance. Amen.